l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, exactement 6h15 à Bukavu. Bonjour et bienvenue pour suivre ce radio journal. Le fil de l'information en trois titres, la FCM23 revendique la prise de plusieurs villages dans les hauts plateaux de Fizi et Mwenga. C'est entre autres Point Zéro, Nyaruhinga, Miko et Musampi, jadis occupés par les forces armées de la RDC. Certains dénoncent l'utilisation des drones dans les affrontements dans cette partie du sud Kivu. Plusieurs opposants congolais se retrouvent à Bujumbura sur invitation du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, pour des consultations politiques. Un analyste que vous suivrez dans ce journal émet des inquiétudes sur le timing choisi pour ces échanges, la veille d'une manifestation à Kinshasa et l'exclusion de certains acteurs, parmi eux l'opposition armée. Un incendie a causé la mort de deux enfants d'une même famille samedi dernier à Tiragaboa 1 dans le groupement de Moudoussa en territoire de Kabare. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialou.
L'AFC M23 Tuluanéo revendique la prise de plusieurs villages jadis occupés par les forces armées de la RDC et leurs alliés dans les hauts plateaux de Fizi et Mwenga. Précision, Omer Moudekereza.
Après l'attaque de l'endroit dit chez Moulima et l'avancée sur Point Zéro, les troupes de l'AFC M23 ont repris le village de Nyaruhinga, Miko, l'un des verrous stratégiques des forces armées de la RDC dans la partie de Fizi, ainsi que le village Musampi, situé à environ 50 km de Fizi Centre. Il en est de même pour d'autres entités, comme Gakenge, dans les secteurs du Tombo en territoire de Mwenga. C'est ce qu'indique Gloire Shukurani, porte-parole militaire du MRDP Turaneo, dans une note partagée à Radio Maendeleo le week-end. Et l'on dit que les combats se sont intensifiés depuis le 1er juillet, avec une offensive des forces armées de la RDC et alliées, mais les troupes de l'AFC M23 Turaneo ont défendu jusqu'à récupérer plusieurs villages. Gloire Shukurani appelle les populations déplacées à regagner leur domicile et rassure quant aux garanties sécuritaires. On l'écoute.
Nous devons également lancer un message d'apaisement au sein de la population. Nous appelons les populations des villages déjà libérés à regagner leurs villages. Mais nous vous prions de regagner progressivement vos villages en fait que vous puissiez réoccuper vos ménages. Et nous vous promettons que nous n'allons pas même baisser les bras et nous allons continuer à vous protéger jusqu'au sacrifice suprême. Nous lançons également un message de compassion aux familles qui ont été victimes des bombardements et qui ont parvenu à perdre les leurs ainsi que à enregistrer des blessés dans leurs familles.
De son côté, c'est l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji, qui dénonce l'utilisation continue des drones dans ces affrontements. Il parle d'une cinquantaine de personnes déjà tuées, dont des femmes et des enfants, ainsi que des humanitaires. Il appelle la communauté internationale à prendre à bras le corps la question de la RDC, jusqu'à parvenir à la cessation immédiate des combats qui ne cessent d'endeuiller la population civile. Sami Kalonji en parle.
Depuis que ces bombardements ont commencé il y a deux semaines, nous dénombrons déjà plus de 50 personnes tuées, parmi lesquelles les femmes enceintes, les élèves, les enfants mineurs, les déplacés internes et même certains humanitaires. Nous avons dénombré des infrastructures routières, sanitaires, les bétails et les champs détruits. Cette situation pousse une grande partie de la population à quitter leur milieu naturel, vers notamment dans des villages environnants, Mukera, Lumanya, Kichula, Kananda, Fizi Centre, voire Sebele aussi, une partie qui descend dans la ville voisine de Baraka. Et nous appelons la communauté internationale à comprendre que la situation que la population du Sud Kivu, en général, et celle du territoire de Fizi, traverse, elle est dramatique. Là où le bas blesse, c'est que cette même communauté internationale reste dans une sorte de complaisance.
Entre-temps, les défenseurs de droits humains dans la zone continuent d'alerter sur la détérioration de la crise humanitaire. Ils déplorent les blocus sur plusieurs entités, empêchant tout mouvement des populations, encore moins des humanitaires, qui pourraient apporter de l'assistance aux populations en détresse.
Et la société civile du territoire de Fizi tire la sonnette d'alarme face à la détérioration de la situation sécuritaire dans les hauts et moyens plateaux, avec un impact négatif sur la crise humanitaire dans une note d'information rendue publique et consultée par Radio Mindeléo le week-end. Cette structure déplore la persistance des bombardements dans différents villages comme Amoulima et ses environs le 3 juillet dernier. Cette attaque menée à l'aide des drones a coûté la vie à 3 civils, dont 2 femmes et un enfant, et détruit l'école primaire Ngouloubé. Elle rappelle également que l'hôpital général de référence de Minembo a déjà été touché lors des précédents bombardements liés aux affrontements opposant l'AFC-M23 Truaneo à la coalition composée des FARDC, l'armée burundaise et des Wazalendo. En plus des pertes en vies humaines, la société civile de Fizi parle également de la destruction des habitations et des déplacements massifs des populations. Dans cette note, la société civile de Fizi regrette que les engagements pris dans le cadre des processus de paix de Doha, de la Suisse et des États-Unis sur la cessation des hostilités ne soient toujours pas appliqués. Son président, Maître Jacques Alimassi, dénonce le silence de la communauté internationale et des partenaires impliqués dans la recherche d'une solution à la crise pendant que les populations civiles continuent à en payer le prix. Il pense que la mise en œuvre effective des accords conclus, l'organisation d'un dialogue intercongolais inclusif, impliquant toutes les parties au conflit, le respect strict des droits humains et du droit international humanitaire reste indispensable en cette période. Maître Jacques Alimassi.
Il y a plusieurs instruments juridiques qui sont déjà signés par les parties prenantes au conflit, qui portent sur la cessation des hostilités, qui portent sur la recherche des solutions aux conflits armés sévissant dans les pays. Tous ces instruments juridiques sont piétinés non seulement par les belligérants, mais également sont piétinés même par les partenaires impliqués dans les processus de recherche de la paix dans la région des Grands Lacs, en particulier en République démocratique du Congo. À quoi bon maintenant de tous ces instruments juridiques? C'est pourquoi nous avions demandé à toutes les parties prenantes de pouvoir respecter quand même les documents qu'ils ont signés, que ce soit à Doha, que ce soit en Amérique, que ce soit en Suisse récemment. Et nous avions aussi demandé aux parties prenantes de pouvoir respecter les droits humains, de pouvoir respecter les droits internationaux humanitaires, parce que c'est la population qui meurt.
Maître Jacques Alimassi, président de la société civile du territoire de Fizi. Entre-temps, dans la ville de Baraka, au moins 5 personnes ont trouvé la mort, 2 autres sont portées disparues et une blessée au cours d'une explosion dont a été victime un convoi funéraire dans la nuit de samedi à dimanche dans cette partie du sud Kivu. Le drame s'est produit aux environs de 23h au quartier Lukoke dans la commune de Kalunja. Des sources de la société civile dans la ville de Baraka indiquent que le convoi transportait une dépouille mortelle depuis Ngalula dans le secteur de Nganja en territoire de Fizi vers Lueba où devait se dérouler l'inhumation. Alors que certains évoquaient la possibilité d'un drone militaire comme source de cette explosion, une autorité parle plutôt d'une foudre souterraine qui serait d'origine mystique, connue sous le nom local des Msarar. La même source estime que dans le convoi, il y aurait un homme qui se serait emparé d'une femme d'autrui et c'est le mari de cette dernière qui aurait fait recours aux pratiques traditionnelles dans la zone pour provoquer la foudre. L'incident s'est produit alors que le cortège s'était immobilisé pour que l'une des motos soit approvisionnée en carburant. Sur les 10 personnes qui composaient le convoi, 5 ont perdu la vie. 2 autres restent introuvables et considérés comme disparus. Une personne reçoit des soins à l'hôpital des Baraka tandis qu'une autre s'en est sorti sans blessure. Pour la société civile locale, seule une enquête crédible peut déterminer les vraies circonstances de cet incident, tout en écartant l'hypothèse du drone. Elle appelle à un renforcement des mécanismes d'alerte dans cette partie du sud au Kivu. Vous suivez Radio Mindeléo dans quelques instants, la suite de ce radio-journal.
Suivez Radio Mindeléo en direct partout dans le monde sur www.radiomindeléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Mindeléo. Radio Mindeléo, c'est vous.
Lundi 6 juillet 2026, la suite de l'actualité. Plusieurs figures de l'opposition congolaise ont commencé à rejoindre la capitale burundaise dans le cadre des consultations politiques initiées à l'invitation du président Evariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine. Cette présence progressive des opposants marque l'ouverture d'un nouveau chapitre politique, même si, à ce stade, aucune liste officielle n'a encore été publiée concernant les personnalités déjà arrivées, ni celles attendues dans les prochains jours. Explication Alain Kabika.
Sur le terrain, les informations restent donc fragmentaires, mais l'on indique la participation de tous les responsables de la coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel C64, venus échanger sur la situation politique en République démocratique du Congo. Dans le même temps, le calendrier des consultations n'a pas encore été clairement dévoilé. Les échanges devraient débuter dans les prochains jours, mais sans précision sur la méthode adoptée. Ces flous alimentent déjà des interrogations sur la structure du processus. Plusieurs observateurs estiment que l'absence d'un cadre clairement défini pourrait influencer la portée des conclusions attendues. Autre point soulevé, c'est l'inclusivité de ces discussions. Pour l'instant, toutes les forces politiques congolaises ne semblent pas encore représentées dans cette initiative. Sur les fonds, les discussions attendues devraient porter sur des sujets sensibles, notamment la gouvernance politique, les tensions institutionnelles et la situation sécuritaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. En attendant, Bujumbura devient progressivement un espace de discussion politique en construction. Mais le succès de cette initiative dépendra de sa capacité à élargir la participation et à définir une feuille de route claire. Déjà, Martin Fayulu avait annoncé qu'une bonne partie de l'opposition se rendrait à Bujumbura le samedi dernier dans le cadre de ces processus. Parmi d'autres personnalités pressenties figurent les prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege et les tandem Senko-SCC.
Et l'entrée en jeu du Burundi dans les initiatives visant à décrisper la tension politique en RDC se justifie par le rôle stratégique que joue le Burundi comme allié principal de la RDC dans la crise sécuritaire l'opposant au Rwanda. Au-delà de l'alliance régionale entre la RDC et le Burundi, la fonction de président de l'Union africaine que joue aujourd'hui le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, accorde une portée africaine à ces échanges. C'est ce que pense Pierre-Joseph Mugangu, analyste sociopolitique et membre de l'Institut Patrice Emery Lumumba, à la suite de la convocation de l'opposition congolaise à Bujumbura pour des échanges avec le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Cependant, Pierre-Joseph Mugangu émet des inquiétudes au niveau du timing choisi pour inviter les opposants au Burundi et l'exclusion de certains opposants dans ces échanges. Selon lui, un médiateur impartial ne devrait pas exclure certains acteurs, notamment l'opposition armée. Pierre-Joseph Mugangu.
Ceci constitue une opportunité en ce sens où le président burundais, M. Ndayishimiye, au-delà d'être un allié régional traditionnel en contrepoids au Rwanda, sa position au sein de l'Union africaine donne un volet continental à ces discussions. Cependant, au revers de la page, on devrait se poser des questions par rapport au timing de cette convocation. Est-ce un moment opportun pour convoquer de telles négociations, surtout que nous serons sur le point d'assister à des manifestations de désobéissance civile et de marches pacifiques. Au-delà de ça, un autre problème, s'agit-il simplement de l'opposition politique ou c'est une opposition qui prendra en considération intégralement tous les adversaires politiques militaires qui font obstacle au projet potentiel du gouvernement de Kinshasa de changer la constitution pour prolonger le mandat du chef de l'État. Et donc tout ça, ce sont des questions que plusieurs personnes devraient se poser et que nous-mêmes en tant que citoyens, nous devons nous poser pour essayer de savoir en quelle mesure cette convocation peut bénéficier à la population congolaise plutôt que de constituer un obstacle ou de satisfaire les intérêts d'un ou de deux personnes. En ce sens que un négociateur impartial ne devrait pas choisir selon ses préférences les participants à cette négociation.
Pierre-Joseph Mugangu au micro de Radio Mandeleo. Vous l'avez suivi au sommaire. Deux enfants d'une même famille ont péri dans un incendie survenu samedi 4 juillet vers 13h à Tiragabwa 1 dans le groupement de Moudoussa en territoire de Kabare. Trois maisons ont été réduites en cendres et une quatrième a été démolie pour empêcher la propagation des flammes. Ces informations sont livrées par la société civile locale qui indique que les victimes sont Rushenge Moussole, âgé d'environ 12 ans, et Bouache Moussole, âgé d'environ 3 ans. Cette structure indique que ce drame plonge la famille des victimes et toute la communauté des Moudoussa dans une profonde consternation. Elle présente ses condoléances à la famille endeuillée et aux autres ménages touchés. Elle appelle également à un élan de solidarité en faveur des sinistrés, notamment par une assistance en vivres et en non-vivres. Enfin, la société civile demande aux autorités compétentes de renforcer les mesures de prévention contre les incendies afin d'éviter de nouveaux drames. Le rapporteur de la société civile de Moudoussa, Alain Achouza, en parle.
Cet incendie a coûté la vie à des enfants appartenant à une même famille. Rushenge Musole, âgé de 12 ans, Buhashe Musole, âgé de 3 ans. Le bilan matériel fait état de 3 maisons parties en fumée, une maison démolie pour limiter la propagation du feu. La société civile Force Vive du groupement de Moudoussa exprime sa compassion envers la famille endeuillée. Lance un appel également à la solidarité envers les familles sinistrées, afin qu'elles puissent bénéficier d'une assistance humanitaire, notamment en vivres et en non-vivres. Invite les autorités compétentes ainsi que les organisations humanitaires à apporter un soutien rapide aux victimes et à renforcer les mesures de prévention contre les incendies.
Alain Achouza, rapporteur de la société civile de Moudoussa. Et les véhicules en provenance de Bukavu peuvent désormais atteindre Kigulube dans le territoire de Shabunda en passant par Bourale et Isezia. Après un long moment de blocus imposé par les groupes armés qui contrôlent la partie Shabunda, la circulation est désormais possible, indiquent des transporteurs sur cet axe. Néanmoins, les défis demeurent énormes sur cette route en terre battue, rarement entretenue et avec des ponts effondrés et où un délabrement très avancé. Parmi ces ponts figurent Maimingi 2, Nyombe, à 4 km de Nyalube Mbam, le pont Bibugwa 1 et 2, les ponts Kambungula 1 et 2, ainsi que le pont Kimbili. En tout, il s'agit d'au moins 10 ponts jetés sur différentes rivières qui se sont effondrés, indique notre source. À tous ces endroits, les transporteurs sont obligés de passer leurs engins dans les eaux des rivières avec tous les risques de connaître des accidents et ainsi perdre les marchandises, voire les engins eux-mêmes. Ces derniers estiment que la concentration des efforts des notables locaux, des ressortissants de Shabunda et des usagers de cet axe routier allant de Bourale et Kigulube en passant par Isezia pourrait être la solution pour non seulement la réhabilitation des ponts mais aussi l'entretien régulier du tronçon. Entre-temps, il plaide pour la suppression et ou la réduction des barrières payantes entretenues par des hommes armés. Notre source estime que la réouverture de cet axe routier reste un levier majeur pour relancer l'économie dans cette zone où les produits de première nécessité se sont raréfiés depuis plusieurs mois. Vous suivez Radio Mendeleo, à présent la deuxième partie de ce Radio Journal.
La revue de presse. Radio Mendeleo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La détérioration de la situation humanitaire des déplacés de guerre à Mouchouchou, en territoire de Kalehe, et la perte en vie des 3 personnes d'une même famille suite à l'effondrement d'une briqueterie à Moussimba, dans le territoire des Lubero, en provenance du Nord Kivu, font partie des sujets commentés par la presse le week-end dernier.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maendeleo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Sport à présent, la Coupe du Monde de football poursuit son bonhomme de chemin ce lundi 6 juillet avec la suite des 8e des finales. À partir de 21h heure de Bukavu, place au choc entre l'Espagne de Lamine Yamal et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Tard dans la nuit, les États-Unis retrouvent la Belgique à 2h du matin. La nuit de dimanche à ce lundi a été riche en enseignements et émotions, notamment avec un fait frappant. Pour la première fois depuis 1990, le Brésil sort avant l'étape des quarts de finale du mondial. Le Brésil a été éliminé par la Norvège. Les Vikings norvégiens se sont imposés sur le score de 2-1 avec au passage un doublé d'Erling Haaland qui totalise 7 buts en compétition au même titre que Lionel Messi et Kylian Mbappé. Pour son dernier mondial, Neymar a marqué sur penalty à la dernière minute du match, mais cela n'a pas permis au Brésil de rester en compétition. À l'opposé, la Norvège est qualifiée pour la première fois en quart de finale de la Coupe du Monde. Historique pour la Norvège, mais échec monumental pour Ancelotti, arrivé sur le banc du Brésil pour être champion du monde. La revue de presse avec Myriam Ofano.
Débutons cette revue de presse par la Prenelle RDC qui écrit « La société civile Force Vive de Kalehe alerte sur la détérioration de la situation humanitaire après les récents affrontements entre les combattants Wazalendo et les mouvements de la FSM-23. Les combats survenus fin juin 2026 dans plusieurs localités ont contraint de nombreuses familles à fuir vers le village du littoral où ils sont accueillis par des ménages déjà en grande difficulté. »
Selon ces structures citoyennes, contactées par ces médias, l'arrivée massive des déplacés aggrave la pression sur les communautés d'accueil, dont les moyens de subsistance, principalement basés sur l'agriculture, sont fortement affectés par l'insécurité persistante. Cette situation fait craindre une aggravation de l'insécurité alimentaire dans cette partie du territoire des Calais. La société civile appelle les organisations humanitaires à intervenir rapidement pour soutenir les personnes déplacées et les familles d'accueil. Elle exhorte également le gouvernement congolais, l'AFC-M23, à privilégier les dialogues afin de favoriser un retour durable de la paix et permettre la réinstallation des populations dans leurs villages en toute sécurité, conclut la Prunelle RDC. De son côté, Watoto News indique que 3 enfants d'une même famille ont perdu la vie et une jeune femme de 25 ans a été blessée lors de l'effondrement d'une briquette survenue à Moussimba dans le territoire des Loubert au Nord Kivu. Selon la société civile, approchée par ses médias, le drame s'est produit en pleine pluie lorsque la briquetterie s'est écroulée sur plusieurs personnes qui s'y trouvaient. Les bilans provisoires fait état des 3 enfants décédés sur place, âgés de 1, 5 et 12 ans, tandis que la jeune femme, légèrement blessée, reçoit des soins dans une structure sanitaire de la place. Les corps des victimes ont été transférés à la morgue du centre hospitalier Saint-Raphaël en attendant les conclusions de l'enquête. Suite à cet accident, la société civile du milieu dénonce la prolifération des briqueteries exploitées sans respect des normes de sécurité et appelle les autorités à renforcer la réglementation du secteur afin de prévenir de nouveaux drames, conclut Watoto News. Bouclons cette revue de presse par KivuTimes.com qui indique que la rougeole continue de toucher les enfants de moins de 5 ans dans les territoires des Kabare au sud Kivu malgré les efforts des autorités sanitaires. Les professionnels de santé contactés par ces médias attribuent cette persistance au déplacement des populations liées à l'insécurité, aux ruptures occasionnelles des vaccins et les non-respects du calendrier vaccinal. Selon les responsables sanitaires, les déplacements forcés empêchent de nombreuses familles de poursuivre la vaccination de leurs enfants tandis que les pénuries des vaccins et du matériel compliquent les campagnes de vaccination. Le manque de sensibilisation de certains parents contribue également à l'exposition des enfants à cette maladie hautement contagieuse. Face à cette situation, les responsables sanitaires appellent les parents à respecter les calendriers vaccinaux et demandent aux autorités ainsi qu'aux partenaires humanitaires de renforcer l'approvisionnement en vaccins et d'intensifier les campagnes de vaccination, notamment dans les zones qui accueillent les déplacés des guerres afin de prévenir de nouvelles flambées des rougeoles, conclut Kivutam.
Et puis, cette mise au point avant la fin de ce radio-journal, le bureau de communication de l'honorable Kindja Mwendanga Béatrice, députée provinciale, élue de Bukavu, porte à la connaissance de la population du Sud Kivu, en général et plus particulièrement celle de Bukavu, que leur élu n'organise ni n'appuie dans les 3 communes de la ville de Bukavu aucune activité portant sur l'épargne à la carte. Et surtout pas en cette période où aucune structure financière crédible n'est officiellement opérationnelle dans la ville. Le bureau de communication de l'honorable Kindja Mwendanga Béatrice précise en outre que le plaidoyer mené par l'élu en vue du bien-être social et professionnel des agents et fonctionnaires de l'État n'est soumis à aucune condition, ainsi que non plus à aucune adhésion ou à une quelconque organisation ou structure. Toute démarche ou tout langage allant dans le sens contraire de l'esprit de ce message n'engage aucunement la responsabilité de la députée Kindja Mwendanga, étant élue proche de sa base et engagée pour son épanouissement et développement. Tout service que rend l'élu à sa base et à titre gratuit, sans toute discrimination, est accessible à tout agent en ordre avec son administration. À bon entendeur, vigilance oblige. Cher Chabani, pour la communication de l'honorable Kindja Mwendanga Béatrice, signe ce communiqué. Par ici prend fin ce radio-journal. Anissia Konko a assuré la mise en ordre devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Passez une bonne semaine en compagnie de Radio Mandela. Au revoir.